Bonjour à chacun. Nous allons voir la vie de quelqu'un qui, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, n'a été que des souffrances. Et jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas perdu courage, parce qu'on sait, la Bible nous dit qu'il a été au paradis, malgré toutes les souffrances qu'il a souffertes après s'être converti. Il n'a vécu que des souffrances après sa conversion. Et pourtant, bien avant, il a été bien tourmenté. Regardons avec ensemble, je vous propose de lire son histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27. On va lire son histoire dans deux évangiles, puisqu'on est obligé de croiser pour avoir le passage en entier. Donc nous allons commencer au chapitre 27 et nous prenons à partir du verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus était donc au milieu. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en se disant « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ». Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insulter de la même manière. Sur ce verset, nous passons dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et nous lisons à partir du verset 39. Les deux brigands sont en train d'insulter Jésus, et à un moment, il y a un déclic. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, donc de midi à trois heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, « Cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Nous avons donc là une histoire qui nous parle de la mort de Jésus sur la croix, bien sûr. Le moment où Jésus va mourir pour le péché de l'humanité tout entière, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque. Il est mort pour nos péchés aujourd'hui, et c'est ce pourquoi Jésus est venu marcher sur la terre. Il est venu marcher sur la terre pour accomplir la loi et aller jusqu'à la croix pour mourir pour chacun d'entre nous. Mais nous avons un exemple qui nous parle beaucoup en cet exemple du brigand sur la croix. Des brigands sur la croix, parce qu'on voit que les deux étaient dans la même condition, et pourtant l'un va réfléchir, va rentrer en lui-même et avoir une vraie réflexion, une vraie démarche vis-à-vis de Dieu, alors que l'autre va rester dans son incrédulité. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Pourquoi l'un va croire, l'autre ne va pas croire? Tout simplement parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Dieu respecte notre choix. Mais il est important de comprendre que notre choix a des conséquences dans la vie éternelle. Le choix que nous allons faire cet après-midi est important. Comment cet après-midi je vais me positionner par rapport à ce message? Comment cet après-midi je vais quelle sera ma réflexion à l'écoute de ces paroles, de ce témoignage? Le brigand, c'était quelqu'un... Les deux étaient tourmentés. Les deux étaient tourmentés, comme on l'a chanté. C'était des âmes tourmentées. Je ne sais pas, mais on sait tous que les criminels, les grands criminels, pour en arriver là où ils sont, c'est qu'ils ont de graves problèmes. Je ne veux pas les dédouaner des crimes qu'ils ont commis, bien sûr. Chacun est responsable de ses actes et doit payer la conséquence de ses actes. Ça, c'est la loi et c'est tout à fait normal. Néanmoins, pour en arriver là, tout grand criminel a eu de graves problèmes dans sa vie. Et il en résulte les crimes. Il en résulte toutes sortes d'actions parce que c'est le trop-plein qui déborde. Vous comprenez? Et les criminels sont comme ça. Et dans leur tête, ils ont des problèmes. Ils sont en proie au tourment jour et nuit. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas accepté ce qui leur est arrivé. Ils souffrent jour et nuit. Et ils en sont à méditer le mal. Ils en sont à arriver là où ils sont. Les deux brigands étaient dans ce cas-là. Est-ce qu'on a imaginé un petit peu ce qui a pu se passer pour chacun des deux brigands? Imaginons quelques instants, la veille. Ça devait être terrible quand même pour eux. Ils étaient très certainement au cachot, en attendant leur sort. Est-ce que d'après vous, ce soir-là, ils ont bien dormi? Ça m'étonnerait. Ils n'ont pas dû fermer l'œil de la nuit. Quand vous savez que le lendemain, vous allez aller sur une croix, à mon avis, ça doit faire réfléchir. À mon avis, de savoir qu'on va passer par des souffrances atroces avant de mourir, parce qu'il faut le dire, la crucifixion, c'est la mort la plus terrible physiquement. Les clous plantés sont à des endroits qui sont bien précis, qui font en sorte que les nerfs envoient des messages de douleur à travers tout le corps. Et à quelle que soit la position que le crucifié prenait, c'était une souffrance extrême. Une douleur extrême dans tous les membres du corps en même temps. La crucifixion, c'est terrible physiquement. Et les Romains avaient bien senti que c'était la torture la pire. De toutes les tortures qui puissent exister, c'est celle-ci la pire. Pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez trouver sur Internet toutes sortes d'analyses sur ce que subit un crucifié. Quand on lit ces choses, ça nous retourne. Tellement c'est une souffrance extrême. Ces futurs crucifiés, ils devaient certainement réfléchir, raisonner, imaginer leur journée. Mais en même temps, ils ont dû réfléchir sur leur vie, vous ne croyez pas? Pourquoi est-ce que j'en suis là? Si seulement j'avais pu recommencer ma vie et ne pas faire ce que j'ai fait là. Si seulement... je pouvais réparer mes actes. Si seulement j'avais pu ne pas les avoir commis. Voilà les tourments qui peuvent être là. D'autres pouvaient leur dire, de toute façon, tu l'as bien mérité. Tu vas y passer et c'est de ta faute. Et c'était juste. C'était juste parce qu'ils le disent eux-mêmes. C'était juste. Mais en même temps, cette voix-là devait résonner aussi. C'est de ta faute, tu n'as que ce que tu méritais. Quel monde sans amour, certes juste, et encore, c'est la justice du monde, elle n'est pas toujours juste. Mais en ce qui les concernait, la justice était faite. En ce qui les concernait, justice était rendue. Ils savaient qu'ils allaient passer par là. Est-ce qu'ils pouvaient imaginer un peu leur souffrance? Certainement qu'ils avaient déjà dû voir aussi des crucifixions avant eux. Ils ont dû voir des images, des crucifiés qui sont passés avant. Vous savez, quand des enfants attendent une punition, quand il y en a plusieurs, de savoir qu'on est deuxième, vaut mieux passer d'abord, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je ne sais pas si on s'imagine, mais ce n'était pas la première crucifixion en Israël, c'était chose courante. C'était chose courante. Ces deux brigands-là, ils en ont vu et revu des crucifiés. Ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient par quoi ils allaient passer. Ils savaient qu'à un moment donné, on allait leur briser les jambes pour abréger les souffrances. Parce que les souffrances sont tellement atroces. Parce que le problème de la croix, c'est que ça dure longtemps aussi. C'est pour ça que c'est une torture qui est terrible. Ces deux brigands devaient s'imaginer tout ça. Certainement devaient se dire « je ne veux pas souffrir ». Ils devaient se lamenter sur le fait qu'ils allaient souffrir et qu'ils n'auraient pas le choix, etc. Ces brigands-là, voilà les réflexions, mais quelque part, il y a quelque chose qu'ils n'avaient certainement pas imaginé, c'est qu'ils ne seraient pas deux crucifiés, mais trois. Et ce qu'ils n'avaient certainement pas imaginé, c'est qu'ils feraient une rencontre tout à fait inattendue sur la croix même. Ça, les brigands ne l'ont pas imaginé une seule seconde. Certainement, quand ils ont dû voir qu'il y avait trois croix, ils ont dû être surpris. Ils pensaient être seuls, mais non, il y avait un troisième larron qui arrivait. Ce jour-là va être décisif pour les deux. Elle va être vraiment décisif pour les deux. Mais avant d'aller plus loin, par rapport à ces tourments qui sont là, pour ces deux brigands, peut-être on pourrait aussi avoir cette réflexion, mais est-ce que quelque part, on n'est pas tous des condamnés à mort? C'est peut-être cru ce que je dis. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et Dieu nous appelle à régler notre vie de notre vivant. L'homme est condamné à mort. Pourquoi? Parce que le péché est là. Le sort de ces brigands est frappant. Évidemment, ils ont commis des crimes. Mais on pourrait peut-être se dire, mais moi, j'ai rien commis. Moi, j'ai dans ma vie, j'ai une vie réglée. J'ai jamais volé, je ne mens pas. Tout va bien dans ma vie, j'ai une vie rangée, j'ai une famille, j'ai une femme, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je les entoure, je veille à leur éducation, tout va bien. Comment ça, je suis condamné à mort? Regardez avec moi ce que écrit David, on va quand même lire la référence, dans le psaume 51. C'est un verset qui est très parlant. Il est écrit « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Pourquoi j'ai lu ces deux versets? Parce que d'un côté, on a ce triste constat que de notre naissance, par notre nature, nous sommes pécheurs. Parce que l'homme a péché dès l'origine. Et le péché se transmet de père en fils, c'est comme ça, de mère en fille ou en fils. De génération en génération, nous sommes marqués par le péché. Nous le savons tous fort bien quand nous prenons des résolutions que nous sommes incapables de tenir. Pourquoi? Parce que notre chair nous pousse à faire l'inverse. C'est comme ça, le péché est en nous. Et à cause de ce péché-là, on est privé de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Et il faut réaliser ces choses. Nous sommes tous des condamnés à mort. Le problème, c'est que si, sur cette terre, je reste dans cet état-là, et que vient le moment de ma mort, que je ne décide pas d'ailleurs, parce que notre vie ne nous appartient pas, elle ne tient qu'à un fil. La Bible parle du fil d'argent, c'est un fil tout fin qui tient notre vie dans l'Ecclésiaste. Et notre vie ne tient qu'à un fil. La Bible le dit. La Bible le dit. Elle ne nous appartient pas et elle ne tient qu'à un fil. Nul ne connaît le jour de son départ. Personne ne peut le connaître. Et Dieu nous demande, nous supplie. Il nous avertit, mais en même temps, il nous supplie. Repentez-vous. de vos péchés. Demandez pardon, parce que l'amour est là. Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés. Pour pardonner nos péchés, mes péchés. Jésus est mort pour pardonner mes péchés. Merci Seigneur pour ma part, parce que j'ai cru, mais j'aimerais tellement que tout cela, cet après-midi, on ait fait ce choix que d'accepter que Jésus soit mort à notre place pour que nous soyons pardonnés. Jésus est mort pour nous. Et c'est ce que les deux brigands vont découvrir. Et il est triste de constater qu'un seul des deux ne va croire. Les deux brigands constatent que Jésus est là. Imaginons là encore. On s'habitue au texte. Mais les brigands, ils étaient contemporains de Jésus. Ils ont vu Jésus à la synagogue certainement plusieurs fois. Peut-être même qu'ils ont vu Jésus accomplir des miracles. Vous savez, dans la Bible, tous les miracles de Jésus ne sont pas relatés. Hein. L'apôtre Jean le dit très bien, qu'on ne pourrait pas écrire tout ce que Jésus a fait. Combien de miracles par jour Jésus accomplissait-il ? C'était Dieu sur la terre, Dieu incarné. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, amenait la vie, la bénédiction. Et je ne peux pas croire que ces deux brigands n'aient pas croisé sa route un jour ou l'autre. Les deux brigands, ce n'est pas écrit qu'ils l'ont vu, mais ça semble probable, parce que l'un des deux atteste que Jésus n'est pas à sa place sur la croix. Si l'un des deux le dit, c'est qu'il le dit sachant qu'il savait que l'autre le savait aussi. On relit ce verset. C'est dans Luc, chapitre 23, verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » C'est le brigand qui le dit. S'il le dit, c'est qu'il sait que c'est vrai. Il sait très bien que Jésus de Nazareth n'a rien à faire sur une croix. Et pourtant, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le Jésus qui a fait des miracles là, dans Jérusalem et ailleurs. Il voit ce Jésus qui prêchait. Il voit d'ailleurs, il a entendu même sur la croix les paroles de Jésus qui disait « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il entend bien que le témoignage de Jésus ne correspond pas à la condamnation. Il y a un décalage, il y a un problème. Et le brigand sur la croix voit très bien qu'il y a un décalage. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ça alors, Jésus en personne au milieu de nous. Au milieu de nous. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est là qu'on voit là toute la démarche que le brigand pouvait avoir. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vois bien qu'il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais je te demande, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Sa prière, elle est ce qu'elle est. Sa prière est ce qu'elle est. Mais il y a une chose qu'il réalise, c'est qu'à côté de Jésus, lui, il est vraiment sale. Il réalise une chose, c'est que les paroles de Jésus, elles sont formelles. Et il a demandé à Dieu qu'il soit pardonné. Il l'a entendu de ses propres oreilles sur la croix. Il voyait les Juifs, les pharisiens, les soldats romains l'insulter, le mépriser. Et en face, il voyait Jésus qui demandait au Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le brigand l'a vu, l'a entendu de ses oreilles. Et il se dit, mais s'il est prêt à leur pardonner, pourquoi pas moi ? Ce brigand qui était tourmenté jour et nuit par sa vie, par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il a dit, ses mauvaises actions, ses crimes, parce qu'il le dit lui-même aussi. On ne va pas essayer d'imaginer ce qu'il a pu faire, mais pour qu'il aille jusqu'à la croix, ce n'est pas des petits vols à l'étalage qu'il a fait. Il était tourmenté, cet homme, et il demande la grâce. Et il demande la grâce à Dieu. Il demande la grâce à Jésus, souviens-toi de moi. C'est ça qu'il demande, parce que il voit le visage, il a dû voir, leurs regards ont dû se croiser certainement. Et il a dû voir la paix qui rayonnait du visage de Jésus, malgré les souffrances. Jésus aussi souffrait. Mais Jésus était dans la paix. Et il fait cette prière. Cet après-midi, c'est peut-être aussi l'occasion, pour nous aussi, qui sommes des condamnés à mort, de faire le point et de dire, Seigneur, je ne te connais pas, je te demande, montre-moi qui tu es. Souviens-toi de moi, si jamais je devais mourir. C'est une prière, sa prière était peut-être maladroite, mais Dieu, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur. Et si peut-être parfois on formule mal nos prières, si peut-être parfois on n'arrive pas à parler, même on ne peut pas parler peut-être, Dieu voit notre cœur. Dieu voit ton cœur cet après-midi. Et si dans ton cœur tu l'appelles au secours, il le voit. Si dans ton cœur cet après-midi tu lui demandes pardon pour ton péché et que tu veux venir à lui, alors il t'entend. Et il t'accepte les bras ouverts. Il était les bras ouverts sur la croix. Signe qu'il nous accueille. C'est là toute la grâce de la mort de Jésus-Christ. Moi, il y a quelque chose qui me rassure aussi. C'est la patience de Dieu. Dieu a patienté jusqu'au dernier. Jésus a patienté jusqu'au dernier. Pourquoi je dis ça? Parce que après que le brigand se convertisse, les ténèbres arrivent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les ténèbres arrivent. Et Jésus va être abandonné de Dieu. Pourquoi? Dieu, Jésus, pour qu'il puisse donner cette parole de vie au brigand, il fallait qu'il ait cette communion avec Dieu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres arrivent, ils vont durer 3 heures. La lumière, Jésus, la lumière du monde, s'éteint. La lumière du monde disparaît. Les ténèbres sont sur le monde entier pendant 3 heures. Et Jésus lui-même n'appelle plus Dieu son Père, mais il appelle mon Dieu. Qui montre qu'il y a quelque chose qui a changé, même en lui. Alors que la lumière s'est éteinte, elle s'est allumée au moins dans un cœur à ce moment-là. Et nous avons ce brigand qui, lui, va vivre les meilleurs moments de sa vie, dans les ténèbres. Et cet après-midi, nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Où on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. Toutes les valeurs sont inversées. Il n'y a plus de loi, ou alors on ne sait pas quoi faire avec les lois. On est dans les ténèbres. Dans notre cœur, on ne sait plus quoi faire. On est envahi de toutes sortes d'images, de toutes sortes de vidéos, de toutes sortes... Nos enfants ne savent plus où donner de la tête tellement on les assaille de toutes parts. On est dans ce monde-là. L'homme croit être dans la lumière, il est dans les ténèbres. Regardons juste autour de nous, voir toutes les médecines parallèles qui fleurissent à droite, à gauche, voir toutes ces personnes qui veulent voir leur horoscope, qui vont vers l'occultisme et toutes ces choses-là. Il y en a de plus en plus autour de nous. Le monde occulte avance et progresse. Nous sommes dans un temps de ténèbres. Et malgré tout, il nous est possible de vivre dans la lumière, comme ce brigand. Il était dans les ténèbres et pourtant la lumière était dans sa vie. Parce qu'il avait reçu cette parole de Jésus, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Notons d'ailleurs que Jésus donne cette parole de son vivant. Ce brigand reçoit cette parole de son vivant. Il savait où il allait. Et il nous est important de savoir où nous allons. Tant qu'on est en vie, la minute là nous appartient. Peut-être. Et pendant ce temps-là, il nous faut prendre la bonne décision. Cet après-midi, si jamais ta vie devait être retirée, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu sais si tu vas au ciel? Est-ce que tu sais si tu vas en enfer? Parce qu'elle est là, la réalité. L'autre brigand n'a pas pris la décision. L'autre brigand est resté sur sa position. Il est resté dans cette attitude injurieuse vis-à-vis de Jésus. Et ce brigand-là est mort dans son péché. Et un jour, il sera jugé, en plus d'avoir été jugé sur la croix. Le brigand qui s'est repenti, lui ne sera pas jugé. Il a été jugé par la justice des hommes, ses crimes ont été jugés, il a payé. Mais bien plus important que ça, il s'est repenti de ses péchés. Et il ne connaîtra pas le jugement de Dieu. Il fait partie de ceux qui sont sauvés. Qu'est-ce qu'il nous montre aussi ce brigand? C'est que le salut ne s'obtient pas par nos œuvres. C'est pas par nos bonnes actions qu'on pourra faire à droite, à gauche. C'est pas parce que je participe avec mon argent au Téléthon ou à telle autre œuvre caritative. C'est pas parce que je donne à des ONG que je vais avoir quelque chose de plus par rapport à Dieu. Non. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour moi, pour vous. Et c'est le seul moyen d'obtenir le salut qui vient de Dieu. Cet après-midi, qui est enfant de lumière? Nous sommes des enfants de lumière quand nous acceptons Jésus à la croix. Et même dans ce temps de ténèbres, même en ce temps de ténèbres aujourd'hui, Julie, tu voudrais bien remettre la deuxième strophe du tout premier chant. Voilà ce qui nous attend. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur, de lever les yeux vers lui lorsque s'épaissit la nuit. Voilà l'expérience du brigand. La nuit était là et lui regardait à une seule chose, son sauveur. Je suis certain, ce brigand-là, il est mort comme ça, ou comme ça, mais il est mort la tête tournée parce qu'il ne devait regarder que lui, que son sauveur. Et à chaque fois qu'il avait mal, il devait le regarder. Et lui dire, mais il est mort pour moi. Et malgré les souffrances qui continuaient, qui étaient perpétuelles jusqu'au moment de sa mort, à cause de la croix, parce qu'il était aussi sur la croix, malgré tout, quelle joie, quelle paix il devait y avoir dans son cœur. C'était à ce moment-là peut-être même l'homme le plus heureux du monde, parce que même les disciples étaient tristes, tout le monde était triste, sauf lui. J'aimerais peut-être qu'on se recourbe quelques instants. Vous savez, il y a autre chose. La Bible dit aussi que nous sommes la lumière du monde parce que nous sommes les enfants de Dieu. L'Église est la lumière du monde. Et un jour, on peut aussi dire autre chose, c'est que pour l'instant, il fait jour. Et qu'un jour, il va faire noir, vraiment, parce que l'Église va être enlevée. Un jour, le Seigneur Jésus reviendra chercher ceux qu'il aime, ceux qui ont décidé de s'engager pour lui. Et j'aimerais vraiment poser cette question. Qui veut, à partir d'aujourd'hui, demander pardon au Seigneur Jésus pour ses péchés? Qui veut décider, à partir d'aujourd'hui, de dire au Seigneur Jésus, « Oui, Seigneur, je m'engage, je veux marcher avec toi, jour après jour, parce que je sais que tu vas marcher à mes côtés. » Matthieu termine son évangile sur cette parole de Jésus qui dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cet après-midi, tu peux prendre cette décision, une fois pour toutes, de suivre le Seigneur. Si tu veux t'engager, si tu veux demander pardon au Seigneur, on va prendre un dernier chant, et je te demanderai de t'avancer. Et pendant ce chant, avance-toi. Et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour que le Seigneur se révèle pour que le Seigneur se révèle à ton cœur. Nous allons prier pour que si tu es malade, tu sois guéri. Parce que le Seigneur veut vous donner la guérison. Le Seigneur veut nous donner la guérison parce qu'il a porté nos maladies sur la croix. Et si c'est par ce moyen que Dieu veut se révéler à vous, eh bien, il le fera. Le Seigneur désire que vous puissiez prendre la bonne décision cet après-midi. Ne résistez pas à la parole du Seigneur. C'est pas moi qui vous le demande, c'est Dieu. Convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous. C'est ce que dit l'Écriture. Le Seigneur nous appelle cet après-midi. Amen. Seigneur Jésus, avant ces chants, je veux te rendre grâce, te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que ta parole nous montre que n'importe qui peut venir à toi. N'importe qui peut prendre la décision de s'approcher, comme ce brigand. Et comme ce brigand a eu la grâce, nous pouvons obtenir la grâce. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes chez qui il y a actuellement ce combat dans le cœur. Seigneur Jésus, je te prie que par ton esprit, Seigneur, une victoire soit remportée. Seigneur Jésus, fais grâce encore à mes amis qui sont là cet après-midi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce qui est encore là cet après-midi. Amen.